Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Au mois de juin, le dernier dimanche de juin, nous avons commencé une série qui s'intitule « Un point de départ ». Et la première question qui avait été posée était « Comment pouvons-nous être sûrs que Dieu existe ?» Aujourd'hui, nous allons aborder une deuxième question. Peut-on faire confiance à la Bible ? Chercher à démontrer, à comprendre que c'est le cas. Voilà pourquoi nous allons commencer par lire quelques textes bibliques. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans un premier endroit qui est le psaume 19. Nous lirons les versets 8 à 11. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique. Il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide. Il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies. Elles sont toutes justes. Plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'or fin. Plus douces que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Nous allons lire un deuxième texte, cette fois-ci dans les évangiles, dans l'évangile de Matthieu. Au chapitre 5, les versets 17 et 18, c'est donc Jésus qui parle ici. « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota et pas une seule lettre de la loi ne passeront jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Et un troisième texte que nous lisons dans les Épîtres, dans 2 Pierre 1, les versets 20 et 21. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Le mois passé, nous avons donc pris le temps de répondre à la question « Comment pouvons-nous être sûrs que Dieu existe ?» Et nous avons terminé en disant que, dans un sens, c'est seulement en le rencontrant. Et ce matin, je prie que Dieu, par son Esprit, nous rencontre et nous éclaire le cœur pour saisir sa parole. Et c'est justement de cette parole, la Bible, les saintes Écritures, la révélation de Dieu, de laquelle nous allons parler. La question du jour, peut-on faire confiance à la Bible ? Faire confiance, c'est être assuré de sa fiabilité, c'est pouvoir lui porter crédit, c'est être sûr qu'elle est digne de foi. On pourrait dire être sûr qu'elle est vraie. Pour vous donner quelques chiffres, j'ai consulté Wikipédia qui m'a indiqué qu'on estime à 25 millions le nombre d'exemplaires de Bible vendus chaque année. On estime actuellement à plus de 6 milliards de Bibles qui ont été imprimées. Et voici ce qu'on en dit. Aucun ouvrage à travers le monde n'a jamais eu un tirage aussi important et constant au fil des siècles. C'est le livre le plus traduit au monde. En 2014, la Bible complète était traduite en 531 langues, le Nouveau Testament en 1329 autres langues et la Bible en cours de traduction pour 1500 autres langues. La Bible est en fait une bibliothèque unie de 66 livres formés de deux grands groupes de livres. Un premier groupe, l'Ancien Testament, composé de 39 livres dans nos Bibles qui couvrent l'histoire depuis la création jusqu'à 400 ans avant la venue de Jésus-Christ. Et ces écrits sont à l'origine en hébreu ou pour Daniel, certaines parties en araméen. Deuxième groupe, le Nouveau Testament, est composé de 27 livres qui parlent de l'accomplissement des prophéties dans la vie de Jésus-Christ et ses conséquences dans l'histoire, avec l'histoire de l'Église chrétienne. Ces écrits sont à l'origine en grec. Nous commençons à comprendre que ce livre de la Bible est tout à fait particulier, surtout si je vous dis qu'il a été écrit sur une période d'environ 1500 ans par une quarantaine d'écrivains. Un livre qui a traversé des siècles et qui semble si important pour certains et si dérangeant pour d'autres. Comment savoir si nous pouvons faire confiance à la Bible? Nous allons prendre quelques instants pour examiner quelques témoignages qui seront le menu du jour. Nous en verrons 5. Le premier seront le témoignage des documents. Le deuxième, le témoignage de l'unité. Le troisième, le témoignage des prophéties. Le quatrième, le témoignage de l'indestructibilité. Et cinquième, le témoignage du Saint-Esprit. Vous retrouvez ces 5 points au dos de la feuille sur une main. On a 5 doigts, donc on peut revenir. Document, unité, prophétie, indestructibilité et témoignage du Saint-Esprit. Donc allons-y, allons voir ces témoins, ces témoignages. Commençons par le premier, le témoignage des documents. Bien des personnes, en parlant de la Bible, disent que c'est un livre certes intéressant, mais qu'il est falsifié, que le texte a été modifié au cours des siècles. Alors, demandez à ces personnes de vous le montrer, et en principe, elles ne le pourront pas, parce qu'elles ne font que transmettre ce qu'elles ont entendu. Jésus dit dans Matthieu 5, 18, « Pas une lettre de la loi ne passe avant que tout ne soit arrivé. Cela signifie que Dieu garde sa parole. » Et nous allons le voir. Pour l'Ancien Testament, nous avons des indications très claires de l'exactitude du texte que nous avons entre les mains. Au début de notre ère, les Massorètes copiaient l'Ancien Testament avec une minutie extrême. Ils utilisaient même un système de comptage où ils comptaient les mots, le nombre de lettres, de lignes, etc., afin d'être certains de ne pas s'être trompés. C'est le test que nous avons. Mais comment être sûr qu'ils ont bien copié le bon texte? Eh bien, en 1948, une découverte archéologique extraordinaire à la Mer Morte nous a permis de comparer le texte que nous avons, qui est le produit des Massorètes, avec un texte datant d'avant la venue de Jésus-Christ. Et en 2000 ans, le texte n'avait pas changé. En 1948, une découverte archéologique extraordinaire à la Mer Morte nous a permis de comparer le texte que nous avons, qui est le produit des Massorètes, avec un texte datant d'avant la venue de Jésus-Christ. Et en 2000 ans, le texte n'avait pas changé. Cette comparaison a montré que le texte avait été préservé. Donc non, il n'y a pas de changement dans le texte, et nous le voyons ici pour l'Ancien Testament. Pour le Nouveau Testament, nous avons des milliers de manuscrits grecs du Nouveau Testament, dont certains remontent jusqu'au deuxième siècle. Et en fait, en prenant tous ces textes, c'est toujours le même texte. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Nous avons des milliers de manuscrits du Nouveau Testament, donc un peu plus de 5000, dont certains remontent jusqu'au deuxième siècle, et c'est toujours le même texte. Il n'a pas changé. Il faut savoir que c'est le texte historique le mieux attesté par le nombre de manuscrits et la proximité avec le texte original. Les autres textes historiques, comme par exemple la guerre des Gaules de Jules César, ne sont pas remis en question par les historiens. Ils pensent qu'il n'y a pas eu de changement, qu'il est vrai. Alors qu'il n'y a pas plus que 10 manuscrits et que le temps entre le manuscrit le plus proche et la date de rédaction est de 900 ans. Et c'est un des manuscrits les mieux attestés. Nous comprenons donc que le Nouveau Testament est clairement attesté et la comparaison des manuscrits révèle une grande fidélité. Les documents témoignent que nous avons un texte fiable et toute personne qui recherche honnêtement et sérieusement pourra le constater. Je peux donc faire confiance aux documents de la Bible que nous avons maintenant. Et même, les traductions sont assez nombreuses dans notre langue, en français, pour me permettre de m'approcher le plus près possible du texte original. Passons à un deuxième témoignage, le témoignage de l'unité. Nous avons vu dans l'introduction que la Bible est en fait une bibliothèque que des écrivains ont complétée sur une période de 1500 ans. Ces écrivains étaient de toutes sortes de couches sociales. Ce n'étaient pas tous des scribes, hein, mais il y avait un prince élevé dans la connaissance de l'Égypte. Il y avait des bergers, des prêtres, des hauts fonctionnaires de puissants royaumes, des pêcheurs, des érudits, des jeunes, des plus âgés, des personnes qui ont écrit durant toute leur vie et d'autres qui ont écrit qu'une lettre. Mais personne n'avait une vue d'ensemble de 1500 ans. Personne n'avait une vue d'ensemble de 1500 ans. Ce n'est pas un homme qui a pu faire passer ses propres idées, car il n'était pas le seul écrivain. Ce n'est pas un homme qui a pu faire passer ses propres idées. Il n'y avait pas qu'un seul écrivain. Et pourtant, la Bible est un message uni. C'est un seul livre qui est maintenant complet. Il commence par le paradis perdu et termine par le paradis retrouvé. Il parle d'une alliance qui se développe. C'est une révélation progressive de l'œuvre du salut qui est annoncée et dont différentes facettes sont annoncées dans l'Ancien Testament et sont accomplies par Jésus-Christ, le centre de la Bible. Le Nouveau Testament témoigne de son œuvre sur terre et explique tout ce que cela signifie. La Bible a un centre. La Bible a un centre, Jésus-Christ, présenté comme étant le Messie dans l'Ancien Testament et traduit par Christ dans le Nouveau Testament. En fait, c'est le même mot, mais dans deux langues différentes, en hébreu et en grec. Hein, Messie et Christ. Donc la Bible a un centre, Jésus-Christ, présenté comme étant le Messie dans l'Ancien Testament, traduit par Christ dans le Nouveau Testament. La Bible a un fil conducteur. La Bible a un fil conducteur, c'est l'alliance de grâce présentée, annoncée et promise dans l'Ancien Testament, accomplie et appliquée dans le Nouveau Testament. Donc la Bible a un fil conducteur, l'alliance de grâce qui est présentée, annoncée, promise dans l'Ancien Testament, accomplie et appliquée dans le Nouveau Testament en Jésus-Christ. La Bible est humaine par ses écrivains, qui chacun y ont mis de leur personnalité, par la forme, par les mots utilisés. Et la Bible est divine par son unité. Seul Dieu qui a inspiré les écrivains a une vue d'ensemble et en est véritablement l'auteur. Voici une belle illustration d'Adolphe Monod qui souligne que nous ne pouvons pas voir la Bible comme étant l'œuvre des hommes. Il dit ceci. Il vous semblera alors aussi incroyable que la Bible soit l'œuvre des hommes qu'il le serait d'un tableau parfait, vous voyez le tableau parfait, tableau de peinture parfait, qui eût été composé par 50 peintres qui se seraient succédé devant une toile où chacun en redonnait en passant un coup de pinceau. Je vous le relis. Il vous semblera aussi incroyable que la Bible soit l'œuvre des hommes qu'il le serait d'un tableau parfait qui eût été composé par 50 peintres qui se seraient succédé devant une toile où chacun aurait donné en passant un coup de pinceau. Et voici les propos éclairants aussi de Paul Wells ici sur ce sujet. La Bible n'est ni un livre tombé du ciel, dont l'apparence seule serait humaine, ni un livre dont le caractère humain éliminerait tout caractère divin. La Bible est la parole de Dieu dans la parole des hommes. Ceci est capital pour la compréhension de la nature de l'Écriture, pour l'interprétation de celle-ci et pour la vie spirituelle. La Bible, c'est donc la parole de Dieu dans la parole des hommes. Je peux faire confiance à la Bible car elle a un message cohérent. Elle a un message cohérent. Ce n'est pas un homme qui veut faire passer son idée. Ce sont des dizaines de personnes de différentes époques qui ont écrit un message qui est manifestement dirigé par quelqu'un qui est au-dessus et qui transmet son message. Hein, ce n'est pas juste un homme qui veut me faire passer son idée. Non. Ce sont des dizaines de personnes, dans des périodes différentes, qui en fait ont écrit un message qui est manifestement dirigé par quelqu'un qui est au-dessus de tout cela et qui veut transmettre son message. Je fais confiance à la Bible parce que son unité me démontre que ce ne sont pas les écrivains humains qui ont dirigé le message, mais un auteur divin. Nous arrivons maintenant au témoignage qui m'a le plus marqué. C'est le témoignage de la prophétie. Témoignage de la prophétie. Alors la prophétie, si c'est annoncer quelque chose à l'avance et constater ensuite sa réalisation. Ok ? Alors voici trois façons de démontrer qu'une parole n'est pas une prophétie. Parce qu'on va l'utiliser ensuite par rapport à la Bible. Hein. Trois façons pour démontrer qu'une parole n'est pas une prophétie. La première, c'est l'accord entre la prophétie et l'accomplissement est fortuit. Oh, je disais un mot un peu étonnant là. Hein. Mais ça veut dire que quelque chose a été annoncé et c'est simplement par hasard que c'est arrivé. Voilà. Donc ça démontre que ce n'est pas une prophétie. Ça serait la première chose. Deuxième chose, l'événement a été arrangé pour la prophétie. Ça signifie que quelqu'un connaissait la prophétie et a tout arrangé pour que cela arrive. Ça ne serait pas une prophétie. Troisièmement, la prophétie a été composée après l'événement. Donc, l'événement se passe et ensuite on l'écrit en disant que ça avait été écrit avant. Ce serait donc une tromperie. Un récit écrit après l'événement est daté d'avant l'événement. Ce ne serait pas une prophétie. Ça va ? Donc ça, c'est les trois éléments qu'on peut maintenant mettre face à la Bible pour voir est-ce que c'est réellement des prophéties. Mettons donc la Bible à l'épreuve de ces trois raisonnements qui indiqueraient que ce n'est pas une prophétie. Premier raisonnement, un événement fortuit. Certains pourraient dire qu'il est facile, on pourrait dire en 2031, il fera beau au mois d'avril avec peut-être un jour de pluie. Mais bon, la Bible, elle est bien plus précise, les amis, et tout particulièrement en parlant du Messie. Hein. Il sera descendant d'Abraham, de la lignée de Juda, de la famille de David. Il naîtra à Bethléem. Il entrera dans le second temple à Jérusalem. Un prophète sera son précurseur. Il sera méprisé des hommes et sera un mélange de grandeur et d'abaissement. Il entrera à Jérusalem sur un ânon. Il sera trahi par un ami pour 30 pièces d'argent qui seront d'ailleurs utilisées pour un champ du potier. Il sera condamné comme un malfaiteur et subira sa condamnation avec une attitude de grande douceur. On lui percera les mains et les pieds. Ses bourreaux se partageront ses vêtements et on se moquera de lui alors qu'il sera dans d'horribles angoisses. On lui donnera à boire du fiel et du vinaigre. Bien que mort comme un criminel, sa tombe sera avec les riches, mais son corps ne se décomposera pas. Tout ce que je viens de vous énumérer a été annoncé au moins 400 ans avant que cela n'arrive. Et encore, je n'ai pas tout dit concernant le Messie, sans parler des royaumes annoncés avec précision, de la chute de grandes villes comme Tyr avec plusieurs détails, etc., etc. Cela balaie clairement l'idée que tout cela a pu arriver par hasard. C'est comme si je jetais des milliers de lettres, je dirais des lettres dans la main, je les jetterais en l'air, ça, hop, je jetterais des milliers d'êtres en l'air en vous disant, en vous annonçant qu'en retombant au hasard, vous auriez le texte actuel de la Constitution suisse. J'ai confiance en la Bible, car il n'est pas possible que tout ce qui a été et si précisément annoncé se soit accompli par hasard. J'ai confiance en la Bible, car il n'est pas possible que tout ce qui a été si précisément annoncé se soit accompli par hasard. Ça, c'était le premier raisonnement. Allons dans le deuxième. Est-ce que ça a été arrangé? Les disciples pouvaient savoir qu'il fallait, par exemple, que le Messie rentre avec un ânon à Jérusalem. Donc, ils ont pu aller chercher un ânon pour qu'il entre à Jérusalem et pour que la prophétie s'accomplisse. Admettons que ça avait pu être le cas. Mais alors expliquez-moi comment ils ont fait naître un précurseur. Trouver ensuite une vierge de qui est né un enfant. Comment aurait-il pu convaincre à quelqu'un de se laisser humilier, de trouver un ami qui le trahit pour 30 pièces d'argent, mais qui vit avec lui pendant des mois sans jamais rien trahir, avec d'autres disciples qui, en fait, sont fans de lui, à un moment donné, le rejettent et ensuite sont prêts à mourir pour lui. Il aurait fallu arranger tous les aspects de l'histoire de Jésus, payer le Sanhédrin pour qu'il veuille tuer Jésus, arranger le coup avec les Romains afin qu'il soit crucifié et le rendre vivant après l'avoir mis dans la tombe du riche. Enfin, c'est une absurdité historique. C'est une absurdité historique. Sans parler des autres prophéties des royaumes. Il faudrait être le maître du monde pour placer sur l'échiquier de l'histoire du monde l'Empire babylonien, puis l'Empire perse, ensuite l'Empire grec d'Alexandre le Grand, pour ensuite arriver à l'Empire romain. Personne d'autre que Dieu ne peut faire cela. L'idée d'événements arrangés pour coller aux prophéties faites dans la Bible est une absurdité que l'on peut évacuer. L'idée d'événements arrangés qu'on aurait mis en place pour coller aux prophéties faites dans la Bible est une absurdité qu'on peut évacuer. J'ai confiance en la Bible car les événements correspondent aux prophéties parce que Dieu les a arrangés ainsi et il l'a annoncé à l'avance. Les deux premiers raisonnements sont écartés. Allons au troisième. Est-ce que la prophétie a été écrite après ? Mais nous avons vu que nous avons découvert des écrits qui dataient d'avant Jésus-Christ et qui correspondaient à l'Ancien Testament qui annonçait la venue de Christ. Si les prophéties avaient été écrites après, les disciples auraient dû aller modifier tous les textes sacrés que les pharisiens gardaient, ainsi que tous les rouleaux dans les synagogues du monde entier, sans que personne ne puisse le savoir ni en parler. Un faible groupe de disciples sans grands moyens matériels et intellectuels serait capable d'aller, par exemple, mettre Ésaïe 53 dans Ésaïe sans que les ennemis de la foi chrétienne ne se rendent compte. Est-ce vraiment raisonnable? Non. Les prophéties n'ont pas été écrites après. D'ailleurs, les Juifs attendaient un Messie. Comment auraient-ils attendu un Messie s'il n'y avait rien dans les écrits? Les prophéties n'ont pas été écrites après. D'ailleurs, les Juifs attendaient un Messie. Comment auraient-ils attendu un Messie s'il n'y avait rien dans les écrits? J'ai confiance en la Bible, car Dieu a annoncé et mis par écrit ce qui devait arriver avant les événements. Et les prophéties déjà accomplies fortifient ma foi. La venue du Messie, Christ en grec, n'est pas un événement fortuit. Ce n'est pas un arrangement historique, ce n'est pas un événement décrit après, c'est une réelle prophétie. Celui qui plonge dans l'analyse des prophéties annoncées et précisément réalisées verra qu'aucun livre au monde, autre que la Bible, n'en fait tant et se sont toutes accomplies. Aucun. Si on analyse précisément la parole de Dieu et d'autres livres, vous verrez qu'aucun autre livre au monde n'en a tant annoncé et qui se sont toutes accomplies. Ou d'autres sont encore à venir, évidemment. Voici ce que Dieu dit dans Ésaïe 55, 11, qui simplement souligne cela. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. » Le témoignage de la prophétie est très puissant pour tous ceux qui veulent bien l'entendre. Et là, j'ai pris que quelques minutes, mais vous pourriez prendre beaucoup de temps sur ce sujet. C'est un témoignage très puissant pour tous ceux qui veulent bien l'entendre. Passons encore au prochain témoignage qui va nous encourager à avoir confiance dans la Bible, le témoignage de l'indestructibilité. Depuis le début, depuis le tout début, depuis le tout début, la parole de Dieu a été attaquée. Le serpent dans le jardin n'a pas hésité de démonter ce que Dieu avait dit. Ça fait longtemps que la parole de Dieu est attaquée. Et au travers des siècles, on a cherché à détruire la parole. Nous avons même un roi de Juda qui donne l'exemple de la destruction en brûlant morceau par morceau un rouleau contenant la parole de Dieu. Yehoiakim qui brûle les paroles que Dieu avait données à Jérémie et qu'il avait fait écrire à Baruch, son secrétaire. Vous trouvez ceci dans Jérémie 36. Et pourtant, l'exil annoncé à Babylone s'est bien réalisé. Il pouvait brûler tout ce qu'il voulait. Et Dieu a demandé à Jérémie de réécrire ces paroles qui nous sont parvenues, même s'il avait voulu les brûler. Sous Dioclétien, l'empereur romain, l'historien Eusèbe nous dit que des édits impériaux publiés partout commandaient de détruire et de niveler les églises au niveau du sol. Donc ici, il faudrait venir niveler au niveau du sol, hein, et de détruire les écritures par le feu. Donc des édits qui avaient été proclamés dans le monde romain. Et Dioclétien érigea un monument sur les cendres d'une Bible où il y est écrit « Extincto nomini Christianorum ». Bon, l'accent, pardonnez-moi l'accent, hein, mais cela veut dire « Le nom des chrétiens est éteint ». Et une vingtaine d'années plus tard, l'empereur suivant, Constantin, demandait des copies du Nouveau Testament et il les reçut dans les 24 heures. La parole de Dieu ne s'était pas éteinte. Nous pourrions encore parler de l'Église catholique romaine au Moyen-Âge ou au gouvernement communiste jusqu'à aujourd'hui qui détruisent et interdisent la lecture de la parole de Dieu, de la Bible. Mais les attaques n'ont pas seulement été physiques. Elles sont aussi philosophiques, archéologiques, scientifiques. Pour la philosophie, on cite facilement le philosophe Voltaire qui disait que bientôt plus personne ne lirait la Bible. Alors que nous pouvons dire aujourd'hui que bientôt plus personne ne lit Voltaire. Pour les archéologues, combien de fois ne se sont-ils pas moqués des informations bibliques pour découvrir plus tard qu'elle avait raison. L'exemple du peuple hittite, de la ville de Ninive, de la place appelée Gabata dans Jean 19-13, du portique de Bethesda et tant d'autres lieux et peuples que les archéologues affirmaient dogmatiquement comme fausses, mais dont les preuves ont démontré la véracité. Pour la science, on fait croire que les découvertes scientifiques récentes prouvent que la Bible se trompe. Mais c'est plutôt l'inverse. Parce qu'en fait, on dit que la Bible se trompe non pas sur les découvertes, mais sur l'interprétation qu'on en fait. Et comme je l'ai dit, des découvertes scientifiques récentes prouvent plutôt la Bible. Comme l'ADN qui permet raisonnablement de comprendre que tous les êtres humains sont descendants d'un couple originel. On peut raisonnablement le comprendre avec l'ADN. Ou sur le même sujet, voici ce que dit Anthony Flew, un athée connu. Les recherches des biologistes sur l'ADN ont montré par la complexité presque inconcevable des arrangements nécessaires pour produire la vie qu'une intelligence devait nécessairement être impliquée. Sans parler de tout ce que la Bible dit de scientifiquement juste, sans être un livre de science. Mais avant la science moderne, que la science moderne le découvre, elle nous parle du cycle hydrologique dans Ecclésiaste 1:7, de la loi de l'entropie croissante dans le psaume 102, 26 à 28, du champ de gravité dans Job 26:7, etc. Ce n'est pas les mêmes mots scientifiques aujourd'hui, il est vrai, mais ces notions sont là. Encore aujourd'hui, on cherche à détruire la Bible, à la discréditer ou à la ranger dans les mythes. Souvent, par des personnes qui n'ont jamais pris le temps de la lire, en cherchant sincèrement à se mettre à l'écoute de l'auteur. Voici ce que la Bible dit d'elle-même, dans Ésaïe 40, verset 8. « L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. » Ou encore dans 1 Pierre 1, 24, qui reprend ceci et qui le complète, qui dit « Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » J'ai confiance en la Bible, car elle est sous protection divine. Personne ne pourra la détruire. Personne. Et pour terminer, j'aimerais vous emmener dans un dernier témoignage. Le témoignage du Saint-Esprit. C'est un témoignage intérieur, un témoignage que tout le monde n'a pas, mais que chacun peut avoir s'il se repent de ses péchés et place sa confiance en Christ. C'est ce témoignage qui permet à chacun de lire la Bible en étant éclairé. C'est ce témoignage qui permet à chacun de lire la Bible en étant éclairé, non pas pour y trouver ce que nous aimerions, mais ce que Dieu veut nous montrer. Ça, c'est l'œuvre du témoignage du Saint-Esprit. Pas pour y trouver ce que nous aimerions, mais ce que Dieu veut nous montrer, car qui mieux que l'auteur peut nous aider à comprendre son texte? Si quelqu'un vous écrit un texte, vous avez de la peine à le comprendre, vous allez demander à cette personne de vous l'expliquer, non? C'est la personne la mieux placée. Voici ce qui est dit dans 1 Corinthiens 2, 11 et 12. « Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par sa grâce. » Cet esprit est donné à tous ceux qui sont transformés par la grâce de Dieu. Et la Bible, par l'œuvre de l'Esprit, transforme des vies. Transforme des vies. Nous pouvons trouver de nombreux témoignages de personnes qui ont été arrêtées, par exemple, juste avant de se donner la mort. Passage de la parole de Dieu qui les a sauvés. Ou qui ont été convaincus par un texte pour reconnaître Dieu. Ou qui encourage, comme pour moi, un texte qui me donne de la force et de la joie dans notre situation sans enfant, c'est Colossiens 2.10. Vous avez tout pleinement en Christ. Ou encore face à mon péché, dans Romains 8.1, car il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc ça me pousse à me repentir et à être sûr que Dieu m'accueille. Ou encore face à ma responsabilité dans les relations, Matthieu 7.5, hein, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. Et tu verras comment enlever la paille de l'œil de ton frère. Et tant d'autres passages. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu est puissante. J'aimerais vous lire ici un témoignage intéressant qui montre la puissance de la parole de Dieu. C'est donc Adolphe Monod qui nous raconte cela. Une mère de famille mariée à un impie qui se moquait de la religion devant ses propres enfants a réussi cependant à les élever tous dans la crainte du Seigneur. On lui demanda un jour, dans l'intimité, comment elle avait pu les soustraire à l'influence d'un père dont les sentiments étaient si ouvertement opposés aux siens. Et voici sa réponse. C'est qu'à l'autorité d'un père, je n'ai pas opposé l'autorité d'une mère, mais celle de Dieu. Depuis l'âge le plus tendre, mes enfants ont toujours vu la Bible sur ma table. C'est ce livre, c'est ce saint livre qui a fait toute leur instruction religieuse. Je me taisais pour le laisser parler. Me faisait-il des questions? Tombait-il dans quelques fautes? Faisait-il quelques bonnes actions? J'ouvrais la Bible et c'est elle qui leur répondait, qui les reprenait, qui les encourageait. La lecture constante des Écritures a seule opéré le prodige qui vous étonne. L'autorité opposée à ce père qui ne voulait rien savoir et qui se moquait de la parole de Dieu n'était pas une autre autorité humaine. C'était l'autorité de la parole de Dieu. La parole de Dieu est efficace. Et c'est écrit dans Hébreux, hein, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des sentiments et des pensées du cœur. J'ai confiance dans la Bible, car le Saint-Esprit témoigne de sa vérité dans mon cœur et je vois qu'elle transforme des vies à salut. Nous aurions encore pu parler de l'auteur qui est très clairement attesté par le texte lui-même qui est Dieu. Nous aurions pu parler de Jésus-Christ qui a parlé de la Bible et s'y est appuyé en la considérant comme étant la vérité. Vous connaissez peut-être le moyen pour sortir de la tentation que Jésus utilise. Il est écrit. Nous aurions encore pu parler du fait que la Bible nous parle de sujets qui dépassent largement les écrivains eux-mêmes. Comment ont-ils pu écrire quelque chose qui les dépasse tant? Nous aurions même pu encore démontrer que la Bible nous permet d'apprendre à connaître le mal sans être tenté. Et tant d'autres sujets qui tous nous permettent de comprendre que nous pouvons faire confiance à la Bible. J'aimerais vous lire la citation d'un inconnu qui présente le contenu de la Bible. Ce livre contient la pensée de Dieu. Il décrit la condition de l'homme, indique le chemin du salut, annonce la condamnation des pécheurs et la félicité des croyants. Ces doctrines sont saintes, ces préceptes sont contraignants, ces récits sont véridiques et ces décrets invariables. Lisez-la pour être sage, croyez-en les paroles pour être sauvé et pratiquez ce qu'elle enseigne pour être saint. Elle contient la lumière pour vous guider, la nourriture pour vous sustenter et les encouragements pour vous réconforter. C'est la carte du voyageur, le compas du pilote, l'épée du soldat et la charte du christianisme. Là, le paradis est restauré, le ciel ouvert et les portes de l'enfer refermées. Christ en est le thème central, notre bonheur, le but premier et la gloire de Dieu, le but ultime. Lisez-la fréquemment, lentement et dans une attitude de prière et d'humilité. C'est une mine de richesse, un paradis de gloire, une source de plaisir. Elle récompensera l'étude la plus attentive et condamnera tous ceux qui prendront à la légère son contenu sacré. C'est le livre des livres, le livre de Dieu, la révélation de Dieu à l'homme. Voilà un petit résumé que vous retrouverez aussi dans le livre Un point de départ. Et le psaume 119, c'est le plus long chapitre de la Bible. Vous savez ce que c'est le psaume 119 ? C'est un hymne à la Bible, en fait. C'est une lettre d'amour à la Bible, qui est appelée la loi de l'Éternel, les préceptes, ses voies, ses statuts, ses prescriptions, ses commandements, sa parole. J'aimerais vous en lire quelques extraits, et nous arriverons à la fin. Psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En observant ta parole. C'est ma consolation dans mon malheur, car ta promesse me fait vivre. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta promesse est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Peut-on faire confiance à la Bible? J'espère que chacun ici pourra dire oui. Et je vous encourage à apprendre, à la connaître vous-même, cette parole, à l'éprouver et à vous y soumettre. Elle nous parle de Jésus-Christ qui est notre espoir, notre maître et notre gloire. Amen. Nous allons prier pour terminer. Éternel notre Dieu, nous sommes dans la joie et dans la reconnaissance parce que ta parole est vraie. Nous pouvons y faire confiance et tu nous donnes même des éléments sur lesquels nous pouvons réfléchir, nous pouvons raisonner et nous pouvons même comprendre que tous ces indices nous indiquent si clairement que nous pouvons faire confiance à ce texte que nous avons encore aujourd'hui sous nos yeux. Oh, nous te remercions. Père, cette parole que tu nous as donnée, cette révélation, tu n'es pas un Dieu qui t'est caché, qui voulait que nous puissions trouver d'une façon mystérieuse qui tu étais par différentes manières. Non, tu t'es révélé par une parole clairement écrite. C'est vrai, dans l'histoire, cela a été de manière progressive, mais nous sommes maintenant dans un temps tout à fait privilégié, nous l'avons complète. Et Seigneur, nous te prions de nous donner cette joie de l'aimer. Non pas de l'aimer parce que c'est un livre sympa sous notre étagère, mais de l'aimer parce qu'elle nous parle de toi, elle nous parle de nous, elle nous parle de notre salut en Jésus-Christ, elle nous parle de comment vivre notre vie dans tous les aspects, de manière à te glorifier et à être dans le bonheur. Car Seigneur, il est bon de vivre selon ta parole. Si nous chantons parfois que ce joug est doux ou qu'il est facile, ce n'est pas parce que nous avons beaucoup de facilité à vivre tout ce que tu nous demandes, mais c'est parce que tout ce que tu nous demandes est bon et nous apporte toujours le bien à long terme. Et nous te remercions, Père, parce que tu es celui qui nous a apporté cette révélation dans ta parole et en Jésus-Christ, qui nous donne cet accès auprès de toi. Seigneur, permets que nous ne soyons pas des égoïstes, que nous ne la gardions pas pour nous, Donne-nous cette grâce, cette joie, ce zèle de la partager autour de nous. Et nous prions que ton esprit agisse avec puissance dans toutes nos relations, dans toute notre région, dans tout notre pays. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.